sur France Inter.
L'éternité est une parenthèse fermée de l'extrême gauche à l'extrême droite. Pas de juste milieu dans l'esprit des murs qui ne pensent que de travers sur le souffle qui s'étend avec vent, mouvement, déploiement jusqu'à essoufflement. Génération intranquille, nous écrivons un autre temps, nous recréons la volonté. Je suis l'idée qu'une autre vie soit à portée de bras, que nous forgeons par l'audace à l'égal du trait de nos arts. James Noël et Néhémie Pierre Dahomé sont ce soir nos invités. L'un est poète, l'autre écrivain. Ils sont tous les deux haïtiens. Nous allons commencer en musique en écoutant Luc Merville puis Wooly.
Vendredi soir, l'école. Allan mache, al cherche kokoye. Si mwen pa jwenn, maman m'a bejoué. Oh Jessica, fòk m'ale tan pri la gè. Maman ple fò bouteille kremas, et on konnen son gran moun ki pès. Li ple m'brase dlo kokoye, a jok li douce. Jokli pwes, doudoum non konen pa ble kitye ou san pa fò douz. Chéri, gade lan poch kon son loki, se la wajwen yon pirouli. Jessica Kembe pirouli, li rale pirouli, li devlope pirouli, li gade pirouli, li manya pirouli. Sal fel souse pirouliya, oh pirouliya.
Mademoiselle,
souse pirouliya, oh pirouliya.
Nigeria,
souse pirouliya, oh
pirouliya. Obodla,
souse pirouliya.
Les avancées, soleil descend. Fok mal fè wout mwen, mè zanmi mwen pa katan. Si tout ma chan, fè men boutik. Oh Jessica, situasyon ma bin kritik.
Fok mal chèchon boutei klerè, la mè vle mè tout moun lan wòl yo. Fok ma chte de twa mò sopè. Aswaya, nap dormi bot lo, chéri ou konnen sak pam se pa ou. En bas soleil, en bas la pli, mais aswaya ki nan mwen an, sel sa ki pam son pirouli. Jessica Kembe pirouli, li rale pirouli, li devlope pirouli, li gade pirouli, li maya pirouli.
Oui.
James Noël, vous êtes poète, auteur de nombreux textes, dont certains sont disponibles en livre de poche, notamment Le pyromane adolescent et Le sang visible du vitrier. Vous avez écrit Cheval de feu, vous publiez récemment un livre qui s'intitule La migration des murs. J'en ai lu d'ailleurs un court extrait dans ce début d'émission. Et puis vous, Néhémie Pierre Dahomé, vous êtes écrivain et vous publiez un livre tout à fait remarquable, un premier roman qui paraît aux éditions du Seuil sous le titre « Rapatrié ». Nous venons d'entendre donc une chanson en créole. La première question s'adresse à vous deux. Dans quelle langue de l'enfance avez-vous été élevé, James Noël ?
Le créole. Le créole c'est vraiment ma langue maternelle et c'est la langue aussi parlée par tous les Haïtiens. Le français, c'est la langue qui vient après, en tout cas dans ma classe sociale, la classe moyenne, la classe à laquelle je faisais partie. On parlait créole à la maison et le français de temps en temps les dimanches sous la contrainte des deux, mes deux sœurs aînées qui insistaient pour le français les dimanches. Et donc c'était ma langue du dimanche. Et à l'école, donc c'était la langue qu'on nous imposait même à l'école. C'est-à-dire que c'est pas une langue qu'on a cherché. Et donc souvent dans les écoles en Haïti, il y a, en tout cas dans ma classe, il y avait un silence que je qualifierais de silence sépulcral parce que le créole était interdit en classe. Donc du coup, c'était vraiment les élèves qui parlaient français couramment qui étaient les plus bavards.
Et vous, Néhémie Pierre Dahomé?
Pareil, j'ai d'abord parlé créole à ceci près que dans ma famille, mon père était pasteur. Hein, il y avait toujours cette présence du texte biblique et généralement en français. Mon oncle également connaissait des parties de la Bible ainsi que ma grand-mère en français et pouvait se faire lire et s'entendre lire et même lire lui-même la Bible en français alors qu'il n'était pas francophone. Donc le créole, oui, comme langue de tous les jours avec les amis, etc. Mais la présence du texte en français est arrivée même avant pour moi d'aller à l'école à 3 ans. Bien sûr, dès que j'étais à l'école à 3 ans, la langue de la scolarisation a été le français. Ce qui fait que quand je prenais conscience de ma situation linguistique, je comprenais certes que je parlais plus créole que français, évidemment, mais je ne peux pas dire exactement quand le français est arrivé. C'est comme s'il avait toujours été là, en soubassement, et que sa présence ne faisait que s'affermir au fur et à mesure.
Et pourtant, tous les deux, aussi bien vous, James Noël, quand vous composez des poèmes, que vous, quand vous écrivez votre premier roman, Néhémie Pierre Dahomé, vous avez choisi le français. Pourquoi ?
Eh bien justement, la langue du texte, d'abord pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est bien le français. C'est comme si une répartition grossière aurait été le créole plus langue parlée, le français plus langue écrite. Pour moi, en tout cas, j'ai beaucoup plus lu en français qu'en créole, et ceci depuis très petit. Hein. J'ai beaucoup plus lu d'abord les textes que je lisais enfant, mes textes scolaires, les textes du programme scolaire en français, mais par la suite, quand je suis arrivé à la lecture récréative et artistique, c'était très directement en français, même si je rattrape de plus en plus ce retard et que je lis de ces belles œuvres qui existent en créole.
Et vous, James Noël, vous n'ignorez pas que dans votre propre pays où vous résidez, il y a un mouvement depuis une bonne décennie maintenant qui s'exprime en voulant que les textes des grands prosateurs, et il y en a beaucoup à Haïti, soient publiés dans les deux langues et quelquefois même uniquement en créole. Et vous, vous restez fidèle au français. Pourquoi ?
Au fait, pour moi, c'est pas une question de fidélité ou d'infidélité. Et au fait, je suis un écrivain bilingue. J'ai deux langues dans ma bouche. Et souvent, je dis que j'écris en créole de la main gauche, en français de la main droite. Et mes références les plus larges, les plus riches sont en français pour la bonne raison que le corpus, en termes de livres traduits, de livres publiés en français, c'est tellement vaste et varié. Donc du coup, mes premiers textes étaient en français. Mais après, justement, après avoir lu Franck Etienne, Félix Maurice Leroy, mais très tôt, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans, d'ailleurs, mon premier livre non publié était écrit en créole. Maintenant, j'ai deux livres publiés en créole. Et j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir été mis en musique très tôt par Willy Saint-Louis-Jean. Et donc du coup, ma première reconnaissance d'abord est arrivée paradoxalement en créole.
Et bien justement, on va écouter celui qui vous a fait connaître et reconnaître, Willy Saint-Louis-Jean. Il va mettre en musique un de vos poèmes, Bonne Nouvelle.
Depi mwen gade piye ou mwen vi gen la ri, jwe potre tout vivi yon lan mou piye a te. Piye ou se bon nouvel ki fet pou sa mache, piye ou se de mevey ki fet pou l'om sezi. Cheri pi ga ou ont si se la mal reme ou, lan mou se chov souri di jou ke tet an ba. Cheri pi ga ou ont si se la mal reme ou, lan mou se chov souri di jou ke tet an ba. Bon nouvel ki fèt pou sa mache, chéri ki te mremè ou, kote lòt neglije ou. M kaba ou de mèm de bas savon lave ki te m savon nan piye ou, jouk lan nuit ki men jou. M kaba ou de mèm de bas savon lave ki te m savon nan piye ou, jouk lan nuit ki men jou. Ki te m savon nan piye ou, jouk lan nuit ki men jou.
Il est proche l'avènement d'une île monde, une île de source franche où la mère s'amène matinale pour effectuer toilette intime, comme une fille consentante et toute contente de se marier à la mer, celle qui sait mieux offrir aune d'écume et dentelle d'eau, écrivez-vous James Noël, dans un livre disponible en livre de poche, ce qui est quand même rare pour les poètes vivants et si jeunes, écrivez-vous dans le sang visible du vitrier. Cette île monde, c'est Haïti, j'imagine.
Oui, c'est Haïti et à la fois le monde, parce que souvent on a tendance à oublier que le monde est en soi une île. Donc du coup, il y a ce va-et-vient, parce que même les Haïtiens, parfois, ils oublient qu'ils font partie du monde. Je pense à mon frère, pour le coup, par exemple, mon frère aîné, lui, qui vient souvent me chercher à l'aéroport, comme je voyage beaucoup, et il n'a pas de passeport. Et pour lui, Haïti, c'est le monde. Pour lui, c'est extrêmement vaste. En effet, Haïti est extrêmement vaste dans la tête des Haïtiens, par son histoire, notre tête, par notre histoire, et aussi par sa superficie, parce que c'est un pays montagneux. Souvent, on n'a pas d'aile, justement, pour évaluer la superficie. Donc, du coup, c'est une île-monde, et en même temps, ça revient au monde qui est en soi une île.
Alors, progressivement, dans votre poésie, James Noël, vous vous êtes acheminé vers une poésie, disons, plus engagée, plus politique, comme en témoigne votre dernier livre intitulé « La migration des murs », on va y revenir. Et vous, pour votre premier roman, Néhémie Pierre Dahomé, même s'il n'est pas politique directement, ce qu'il raconte à travers l'existence d'une femme de peu, dont le nom est Bélie, qui va se retrouver dans un quartier intitulé « Rapatrié », d'où le titre de votre premier roman. « Rapatrié », c'est un quartier où sont logés celles et ceux qui ont tenté de fuir Haïti et qui ont été obligés de revenir à leur propre pays, et on les met en quelque sorte dans des espèces de camps de transit. Pourquoi habitez-vous en France? Êtes-vous encore en Haïti? Le but ultime de ce premier roman n'est-il pas de raconter les heurts et les malheurs de votre propre peuple, Néhémie Pierre Dahomé?
Alors, c'est vrai que le monde peut être conçu comme une île parce qu'on est tous en communication, mais il se trouve qu'il est un peu moins une île pour certains, parce que, comme dit dans Rapatrié, il y a des gens qui essaient de se déplacer dans cette île, dans ce tout monde, et qui ont moins de possibilités, qui ont des passeports qui le leur permettent beaucoup moins. Et Rapatrié se rend bien compte de cette difficulté à voyager. Et pour moi, qui avait déjà voyagé avant de commencer la rédaction de Rapatrié, il ne s'agissait pas forcément de retrouver Haïti. Mais dès qu'on se met à raconter, il est vrai que notre enfance, on se rend compte à quel point elle est partout, dans tout ce qu'on a à dire. Donc Haïti étant mon pays d'enfance, mon pays d'adolescence, cela fait seulement 4 ans que je vis à Paris, je n'ai pas pu m'empêcher de retrouver cette couleur-là, avec toutes les difficultés certes, mais aussi comme le reflète assez bien, je pense, ce personnage haut en couleur qui est belliqueuse, Lucien, Dibelli, cette volonté aussi de dépasser cette situation, d'affronter son destin comme le ferait n'importe quel personnage tragique en Haïti ou ailleurs dans le monde.
Alors on reviendra sur l'universalité de vos propos. Vous, Néhémie Pierre Dahomey, à travers le personnage de cette vieille femme qui est une espèce de clocharde céleste qui effectivement peut vivre sous n'importe quelle latitude et dans n'importe quel continent. Il se trouve que ça se passe à Haïti et qu'on y sent et on y perçoit les odeurs, les saveurs, on y voit cette langue efflorescente et si riche que vous réussissez si bien à transcrire. Et puis vous, James Noël, c'est à Haïti que vous n'avez pas quitté, que vous continuez de composer, mais au fond, je pense que vous avez plusieurs thématiques en commun, et notamment celle de la révolution, révolution à venir, et notamment par l'intermédiaire peut-être d'un de vos ancêtres, puisque vous êtes si jeune. Nous allons écouter la voix de Léo Ferré, Léo Ferré que vous admirez, Léo Ferré à propos de la révolution, et puis on entendra un extrait de L'amour fou.
Vous savez, Léo Ferré, vous avez un public qui vous aime beaucoup, qui aime beaucoup vos chansons. Je crois que tout le monde aime vos chansons. Mais peut-être, parfois, lorsque vous expliquez les choses, vous avez peut-être trop tendance à déborder et à être violent. Vous ne le pensez pas?
Mais quand on se révolte, monsieur, on déborde forcément, on est forcément violent. C'est comme je disais l'autre jour à quelqu'un qui me parlait de la révolution, je lui disais, la révolution, ça se fait pas, j'ai une dame, ça se fait pas en panty, madame, la révolution, ça se fait avec des bombes, avec des armes. Sinon, c'est pas la révolution. La révolution, ça se fait pas avec un programme dans la poche, ça se fait d'abord avec beaucoup d'amour, et hélas, avec de la casse. Allez, c'est tout.
Lorsque vous me mettrez en croix dans votre forêt bien apprise et que je boirai tout en bas la sève tant et tant promise, je vous engouffrerai de sang pendant que vous serez charmé et je vous donnerai l'enfant que vous n'avez jamais été, que vous n'avez jamais. Je vous aime d'amour. Je vous aime d'amour.
Alors, est-ce que le rythme est important pour la composition de vos poèmes, James Noël? Et pourquoi aimez-vous tant, et nous aussi d'ailleurs, hein, Léo Ferré, dont on vient d'entendre un poème qu'il a lui-même composé?
Léo Ferré, c'est quelqu'un qui m'a bercé, qui m'a alimenté, qui a mis vraiment la poésie dans ma bouche pour que je réussisse à parler en poète. Et en fait, Léo Ferré, il est complexe, c'est une source d'inspiration monstrueuse. Et quand je dis monstrueuse, parce que Léo Ferré, il est à la fois dangereux. À un moment donné, par exemple, quand je rêvais de révolution, je pense par exemple à l'année où j'écrivais un livre comme « Le sang visible du vitrier » en 2004, et je rêvais de révolution, de grands changements. Je rêve encore de changements, de grands changements, mais j'ai plus d'illusions sur la révolution. Par exemple, je suis d'accord avec lui quand il parle de il faut lâcher des bombes pour faire ce genre de choses. Donc Léo Ferré, à l'époque, je l'écoutais, mais en même temps avec beaucoup de prudence, parce que pour moi, quand t'es en colère, ben Léo Ferré, ben il ne te calme pas, au contraire, il ravive ta colère. Ben Brassens, c'est quelqu'un qui m'avait calmé avec des textes comme Mourir pour des idées et ou les deux oncles, des choses comme ça. Et Léo Ferré, quand t'es en colère, il te donne pas de porte de sortie, au contraire, et voilà, ça peut même te pousser au suicide. C'est pour ça en même temps que Léo Ferré, pour moi, il est dans l'absolu. Et donc Léo Ferré, c'est pour moi comme poète, ben il est fondamental, au même titre qu'un Aimé Césaire, au même titre qu'Aragon, et pour sa voix, et son rythme, et pour son engagement. Moi, par exemple, je m'inscris plutôt dans l'engagement. Pour moi, c'est l'engagement pour moi qui est une forme d'engagement suprême.
Alors, vous voulez pas nous lire un de vos poèmes, James Noël, pour que les auditeurs se rendent compte de l'ampleur de vos langues, car vous avez plusieurs langues. Vous êtes manifestement un descendant de Rimbaud. Vous avez lu Baudelaire et particulièrement Illumination. Et puis, vous avez différentes langues pour définir différents cycles poétiques et pour décrire aussi différentes métamorphoses politiques de votre propre pays.
Merci. J'aime bien le mot cycle parce que, en effet, de livre en livre, je me recycle. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas la peine d'écrire le même livre, de continuer un souffle, quelque chose que j'ai trouvé, que j'aurais pu développer. Pour moi, à chaque fois, c'est fini. C'est fini dans le sens que je vais pas en écrire un autre. Et pour moi, c'est peut-être la fin de la poésie, la fin éventuelle de ma carrière de poète. Et puis, à un moment donné, par nécessité, il y a quelque chose qui prend distance. Par exemple, La migration des murs, c'est produit comme ça. C'est même pas encore des poèmes, c'est vraiment un texte pamphlétaire, philosophique, toujours vraiment tenu. C'est le poète qui tient encore le volant, mais pour moi, c'est pas du tout inscrit dans une démarche de poète qui fait des vers. Quelques extraits. La migration des murs, par Richard Galade. Viendra un jour le refrain du peuple solide des maçons. Sonnera le glas d'un air nouveau sur la planète. Un peuple de maçons, massue en main, capable de coups de cœur pour la ceinture des murs tombés. Gloire à la santé des peuples qui refusent d'être otages de la pandémie des murs. Tous ces murs systémiques, parasismiques, qui ne tremble pas devant le biberon troué d'un enfant rempli de la plus grande soif de vivre. Dans le royaume des murs, point besoin d'un plus petit que soi, d'où leur courte vision des clous. Les plus belles villes sont celles qui accusent une vieillesse bien frappée. C'est ce qui justifie la fièvre des touristes pour les murs en fin de carrière. Rome, pour cela, est le grand temple de la beauté tangible des murs.
Lily, faites-vous une barmède poétique dans un vieux bar de l'Est plein de fumée? Où l'ivrognerie était douce et romantique, où des loups de mer et des gamins pâles vous aimaient. Dignement tendre avec tous, étiez-vous plus tendre pour un craintif Jack ou Jim aux yeux suppliants, qui vous rêva en fait des bois roses de novembre, ou des lacs de lunaires pâles miroitantes, et mourut de vous et vous fit mourir, haine de la vraie femme pour tous enivrante. And the moon shines bright on the grave of poor Lily Dell. Oh Lily, sweet Lily. Qui se mirent dans l'eau vitreuse des bayous chargés de huttes. Lily, étiez-vous la négrienne du sud d'un noir luisant presque doré de ton reluire? Soleil noir avec un soleil blanc pour sourire. Étiez-vous la petite proie traquée, forcée par de vieux chasseurs blancs obscènes et velus, l'animal favori cajolé puis battu? L'excitante poupée bientôt brisée qu'on enfouit un soir, pauvre chose fluette, près d'un marais de jade où chantaient les rainettes sous la lune qui grimaçait. And as the moon shines bright on the grave of plaintive qu'un sujet de chromo insane. L'atroce fiancée consentie et pensive du contrebandier ou du jeune clergyman. Non, l'air qui vous pleure est trop sauvagement triste. Trop sincèrement naïve sont les paroles. Et que votre joue fut noire, florale ou bise, pour moi vous aurez été âcrement exquise. Et je sens que votre âme dans les brises molles s'envola quand vous mourûtes comme s'envole l'encens de l'iris des prairies vers les étoiles. L'encens de l'iris des prairies vers les étoiles. And the moon shines bright on the grave of Paul Lily Dell. Oh Lily, sweet Lily. And the moon shines bright on the grave of Paul Lily Dell. Oh Lily, sweet Lily.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, ce soir deux invités, le jeune écrivain Néhémie Pierre Dahomé, auteur d'un premier roman intitulé Rapatrié, et le jeune poète James Noël. Vous écoutez le choix musical de James Noël, vous avez reconnu la voix d'Arthur H., qui avait fait il y a quelques années un très bel album intitulé L'Or Noir. Et vous, vous avez choisi donc cette chanson, Lily Dale. Pourquoi James Noël?
Eh bien, j'ai souvent l'occasion d'être sur scène avec Arthur H., qui est devenu un ami après justement l'album L'Or Noir. Et puis Arthur, par exemple, c'est avec lui que j'ai porté sur la scène pour la première fois, c'est en septembre dernier. La Migration des Murs, à la Maison de la Poésie. Et on lira bientôt, le 7 mars, à la médiathèque de Montpellier, à l'occasion du Printemps des Poètes, dont je suis le parrain cette année. Et Arthur, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Cette voix caverneuse me transporte, me rapatrie dans des mondes improbables. Et Lily Dale, c'est comme pour moi l'amour fou de Léo Ferré, qui est d'une puissance poétique et d'une profondeur extraordinaire. Et pour la qualité de la langue, c'est proposé justement de pas mal de cours de français, justement pour la qualité de cette langue, la mélodie et la justesse justement du verbe d'Arthur. Et je pense qu'il y a une forme, peut-être qu'il ne serait pas content, une forme d'injustice quand il y a un chanteur qui a autant de talent. Souvent, ben, il est présenté juste comme le chanteur et c'est un poète, c'est pour moi, qui a de même magnitude que le chanteur. Donc, Lily Dale, justement, comme, voilà, c'est un bastion, comme vous savez, aux États-Unis, spirituel. Là, par exemple, Arthur, justement, qui présente le personnage, qui parle de cette fille, et dans cette Amérique raciste. Et aujourd'hui, c'est plus que d'actualité avec tous ces extrémistes qui se présentent sous toutes formes différentes.
Ça, on peut dire, James Noël, que votre livre sur les murs tombe, hélas, très bien.
Hélas. Mais c'était pas pour, justement, faire coïncider, hélas, avec ce réel et avec ce qui se passe aujourd'hui. Et malheureusement, ça tombe pile avec tous ces murs, justement, qui prospère depuis Haïti, depuis la France, depuis les États-Unis, un peu partout dans le monde arabe. Et on dirait maintenant que vraiment les murs ont plus que jamais droit de cité.
Alors les murs sont bien réels et là, ils s'édifient
Et ils veulent s'édifier de par l'autoritarisme de certains présidents de grands pays en ce moment. Mais il y a aussi des murs immatériels et je crois avoir compris par la lecture de votre livre Néhémie Pierre Daumé, Rapatrié, que ces murs immatériels, ils existent aussi partout, y compris à Haïti, car à travers le personnage principal de votre héroïne, belliqueuse dite Belly, eh bien elle va se heurter au mur de la classe et au mur de la race.
Effectivement, elle se heurte à un certain nombre de murs, et déjà au mur plutôt matériel.
Sans parler du mur du sexe.
Sans parler du mur du sexe, du genre et qu'elle est en train effectivement de vivre. Elle porte pratiquement ses enfants toute seule hein, à un certain moment. Soubner Saint-Just, Néné, n'est pas très présent à la maison. Rapatrié commence sur l'image de Belly qui se déplace, qui va vers Soubner, Néné, pour fonder un foyer. Hein, parce que ça n'avait pas été fait avant. Et... ils vont s'installer à Rapatrié. Une fois à Rapatrié, elle affronte son passé et en même temps qu'elle affronte son avenir. Cet avenir implique effectivement un certain nombre de murs qu'elle a surmontés. Les murs matériels, d'abord, par exemple, non seulement le problème de classe, mais effectivement le problème, les problèmes financiers, etc. Mais aussi...
Belliqueuse va être obligée de donner deux de ses enfants pour pouvoir survivre.
Mais aussi des murs psychologiques. C'est vrai qu'à un certain moment, elle est amenée à faire adopter deux de ses enfants, Bélial et Luciole. Et après cette adoption, elle se rend compte qu'elle ne peut plus vivre sans les enfants. Et c'est là qu'elle prend la décision de se les réapproprier, d'où un enjeu très très fort du roman.
Alors, votre style est lui aussi très musical. Vous avez réussi une composition sociale, historique, politique et aussi sentimentale, parce que cette femme dont vous allez suivre les métamorphoses nous inspire une grande souffrance et en même temps une très grande empathie. Nous allons écouter votre choix musical. Vous avez choisi Néhémie Pierre Daumé, Tikoka, Toi fait, pourquoi ?
Oh, parce que c'est à la fois, ça peut paraître un peu lent, mais c'est très tendre et très joyeux au fait. Je pense que ça représente bien le roman qui est finalement très généreux, même si ça demande de l'empathie, même si ça demande de la tendresse, mais ça demande aussi, en tout cas ça fait appel et ça donne beaucoup de générosité.
Toi veille, tombe là-dedans. J'ai des billets, loi, moi. Toi veille, la tombe là-dedans.
J'ai des billets, ramasser, songer. Hey!
Racino, j'ai des billets pour ramasser songer. Toi, Racino, j'ai des billets pour ramasser songer. Moi, gain basse et loi, toi, fais la tourner là-dedans.
J'ai des billets pour ramasser songer.
Moi, gain basse et loi. Toi fais la tour de là-dedans.
J'ai des billets, ramasser.
Escalier bomba, toi fais la tomber.
Dans bassin, moins, dans la joue. Toi fais tomber, dans bassin.
Si la boyo, toi fais moi tomber.
Dans bassin, moins, dans la joue. Toi fais tomber, dans bassin.
Escalier bomba, toi fais la tomber.
Dans bassin, moins.
Bonjour, Pédouard.
Il y a beaucoup de drôleries dans votre premier roman, Némi Pierre Dahomé. Il y a une charge particulièrement caustique sur les Blancs. Les Blancs qui s'estiment avoir très bonne conscience, ces Blancs qui arrivent en Haïti et qui vont travailler dans l'humanitaire. Et je ne vais pas raconter la trame de votre merveilleux premier roman, mais je vais simplement dire qu'une des deux filles adoptées de belliqueuses, votre héroïne, va être adoptée par une femme ayant très bonne conscience, dont le prénom est Pauline, et qui va adopter cette petite fille un peu comme ça, parce que ça fait partie de l'aide humanitaire. Et elle va être persuadée, cette femme blanche, de vouloir faire le bien de cette jeune haïtienne, et même, en la rapatriant en France, d'essayer d'effacer et de réussir même, ce qu'elle ne parviendra pas à faire évidemment, à effacer la propre identité haïtienne de celle qu'elle a adoptée. Est-ce à dire que tous ces Blancs qui occupent, entre guillemets, votre pays, Haïti, ont une mauvaise conscience mal placée pour vous, Némi Pierre Dahomé?
Alors, il y a deux choses. D'abord, l'adoption elle-même. C'est vrai que c'est toujours très ambigu dans le sens où, quand les parents sont vivants, ils font adopter leurs enfants, il y a toujours un certain nombre de non-dits, un certain nombre d'implicites qui sont de part et d'autre très durs à assumer. À côté de ces non-dits-là, ce qu'on appelle adoption humanitaire, qui est le fait d'adopter pour rendre service, ajoute quand même une difficulté supplémentaire pour l'enfant adopté, qui est d'avoir de la reconnaissance pour, en plus de l'amour maternel. Ce qui n'implique pas forcément que la personne adoptante, dans ce cas-là, Pauline Lagarde, qui laisse, on va dire, sa région de Bourgogne pour aller travailler pour une ONG en Haïti et qui finit par adopter cet enfant, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de la bonne volonté. Elle en a. Je pense même qu'à un certain moment, c'est très fondamental de sa personnalité. Depuis toute jeune, c'est quelqu'un qui se veut être très généreux et c'est quelqu'un qui essaie vraiment de tendre la main. Mais vous savez, quand on tend la main, on le fait toujours dans un contexte, dans un paradigme, mais avec les matériaux qui sont disponibles pour le faire. Et le roman se porte justement sur les matériaux qu'elle utilise pour le faire, pas tant sur la culpabilisation de tel ou tel autre. Hein. Elle se demande vraiment qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi, avec son ONG, elle n'arrive pas à atterrir? Au point qu'elle pose carrément la question. Hein. Elle soulève le problème dans son ONG pour leur dire on est en train d'utiliser des chiffres de rapport des grands bailleurs qui nous ont donné d'autres chiffres, de grosses sommes. Elle essaie vraiment de transformer cette somme en aide, mais elle n'y arrive pas. Et ces deux situations liées donnent tout l'enjeu à un certain moment de cette adoption précise. C'est-à-dire l'adoption en tant que telle, mais aussi l'adoption humanitaire d'une ancienne coopérante.
La vie n'avise pas, c'est la source d'une douleur première. Sauf qu'en me regardant, insista-t-elle, c'est Bélial, la fille adoptée qui parle. Je ne vois pas ta peau, je me frotte, je verse du savon dans la baignoire et m'y bassine, je me frotte encore et toujours, je veux la propreté, me dépouiller de la souillure tenace de ma chair. Après 2 heures, tu viens me tirer du bain, tu souris, vous souriez toutes, toi, ma cousine Agathe et ma tante Gerta, vous dites que j'aime me laver, qu'il fasse froid ou chaud, l'hiver ou l'été, je me lave. Mais vous ne comprenez pas ma hantise, vous ne comprenez pas ma peur que vous me cherchiez un matin et que vous ne me trouviez pas, que je me perde dans le noir et que la lumière du jour me chasse avec lui. C'est qu'il est terrible d'être aussi sombre que la nuit, quand la nuit feint de pleurer, de porter sur sa peau, par sa peau, la marque du diable, de se sentir l'incarnation des 7 péchés capitaux, quand tout autour de soi se répandent la lumière et l'éblouissante clarté du paradis. Voici ce que vous écrivez à propos de cette jeune fille à la peau noire. Et vous, Némi Pierre Dahomé, vous avez la peau noire. Et vous aussi, James Noël, vous avez apparemment la peau noire. Est-ce que ce problème de peau noire, pour reprendre les termes de Frantz Fanon, peau noire, masque blanc, continue à exister de manière très compliquée dans votre propre pays? Je vous pose la question à tous les deux. Némi Pierre Dahomé.
Alors, il se trouve qu'en Haïti, pendant très longtemps, les classes sociales étaient pratiquement identifiées, du moins identifiables en fonction d'une certaine teinte de peau. C'est-à-dire que il y a ce débat déjà très vieux que Jacques Roumain a mené avant nous. Comment s'en sortir de cette situation sociale où, globalement, les mulâtres sont considérés ou sont aisés, et globalement, les Noirs ne le sont pas. Ce qui pose un problème social sous couvert d'un problème finalement racialisé. Hein. Ceci dit, il y a toujours des bémols, hein, parce qu'à Port-au-Prince, il se trouve toujours de voir des personnes de peau très claire dans des classes populaires. Et ces personnes-là ne sont pas appelées mulâtres, sont appelées grimauds ou grimelles.
Ça veut dire quoi ?
Bon, ça veut dire tout simplement personne de peau claire, mais pauvre, quoi. C'est quand on rencontre une personne dans un quartier populaire qui est très très clair, on appelle ça grimaud ou grimelle. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui habite dans un quartier beaucoup plus aisé, qui serait clair de peau, on va l'appeler mulâtre. Donc c'est vrai que il y a cette distinction sociale qui s'est établie en même temps qu'une distinction, j'ai envie de dire, racialisante, hein, parce que c'est pas tout à fait racial. Ces deux distinctions-là se sont très longtemps chevauchées, au point que les Duvaliers ont justifié, en tout cas, leurs installations en prétendant vouloir créer une bourgeoisie noire. Et c'était toute l'idéologie des griots, la bourgeoisie noire qui a été utilisée par Duvalier. Il voulait créer une classe sociale noire et aisée. C'est un problème complexe en Haïti, mais qui existe. Certainement très différemment de comment il peut exister en France. Le mot race ne veut pas du tout dire la même chose. La couleur de peau peut tout à fait renvoyer à autre chose qu'à la race.
James Noël, vous avez le même avis que Némi Pierre Dahomé?
Oui et non, au fait c'est très complexe. D'ailleurs ça c'est dans le oui et le non. C'est-à-dire c'est avant tout un problème de caste et de classe sociale. C'est-à-dire quelqu'un qui a la même couleur de peau que Némi Pierre Dahomé peut être à la fois un mulâtre. C'est-à-dire dépendamment de la famille. C'est-à-dire tu peux être, j'ai des amis justement qui sont de la même couleur de peau que moi. Et après, plus tard, j'ai appris qu'ils sont des mulâtres. J'étais choqué parce que je m'y attendais pas. Mais c'est parce que c'est de par leur origine. Au fait, il y a le fait justement de la révolution haïtienne, justement, qui ce premier peuple. D'ailleurs, c'est même pas noir. Le peuple nègre, ce mot qui est un mot péjoratif en France.
Mais c'est devenu un mot revendicatif et expression d'une beauté.
C'est un mot chargé de lumière pour nous. C'est le mot nègre, c'est un mot qui n'a pas de couleur.
C'est même comme ça qu'on dit homme. Nègre,
ça veut dire homme. Et c'est valable pour les blancs aussi. C'est valable pour tout le monde. Et donc c'est un mot chargé. Un mot chargé de liberté, c'est un mot qui est source de vie. Et moi, par exemple, je fais pas de la négritude mon champ de bataille parce que il y a Césaire qui est un génie, il y a René de Pestre, il y a Senghor qui ont tellement apporté justement. En tant que figure de proue, fleur de lance justement de ces mouvements-là, c'est pas la peine d'en rajouter, et puis j'ai pas les moyens pour, mais en même temps, ça nous donne une conscience très haute de nous-mêmes. C'est-à-dire, Haïti qui a vaincu la première armée du monde, l'armée napoléonienne, ces nègres qui ont vaincu les blancs, mais justement, c'est d'emblée, ils se plaçaient sur le même pied d'égalité, pour ne pas dire même plus haut, et c'est quelque chose qui est resté mais très très fort, qui a marqué très fortement l'imaginaire haïtien.
Alors vous qui êtes très jeunes tous les deux, vous qui êtes d'une génération qui se défie des frontières, qui appartenait au tout monde, pour reprendre l'expression d'Edouard Glissant, vous qui vivez à Haïti mais en partez, y revenez, etc., etc. On s'aperçoit, aussi bien vous, James Noël, à l'intérieur de vos poèmes et aussi à travers la direction de cette très belle revue que vous dirigez qui s'intitule Intranquillité, et vous aussi, Némi Pierre Dahomé, qui vivait en France depuis 4 ans et qui venait de publier ce roman Rapatrié, qu'on n'a qu'un seul pays, c'est celui de l'enfance. James Noël.
Oui, au fait, parmi d'autres, je dirais, parce que dans mon cas, je ne peux pas parler d'une enfance. Moi, j'ai eu tellement d'enfance par ma mère qui bougeait tout le temps.
Et pas de père.
Et sans père. Mais pas sans repère. C'est-à-dire, ma mère, c'était une boussole extraordinaire. Mais en même temps, qui bougeait avec nous en permanence, ce qui me donne, par exemple, beaucoup d'amis d'enfance dans différents lieux. Et donc, du coup, je suis obligé de tenir compte de ces enfants-là qui sont est diffracté et en même temps explosé, tellement riche. Et en même temps, je me rends compte, en effet, que toutes ces enfances-là ont été illuminées justement par le regard de ma mère. En effet, c'est tout aurait pu se produire là, dire mon malheur ou le contraire. Et je pense que comme c'est une enfance chaleureuse et sans mon père, donc du coup ça, le fait d'avoir été élevé sans père, justement constitue même une forme de chance dans ma vie. Et d'où la difficulté pour moi plus tard, justement quand je suis devenu père, de ne savoir pas comment, sur quel pied danser, parce que j'ai pas eu justement à la maison justement un modèle pour savoir quoi. Du coup je me suis proposé justement en écrivant une lettre testamentaire à ma fille Lina pour lui proposer justement comme feuille de route d'être un ami d'enfance.
Alors vous, Néhémie Pierre Dahomé, à l'intérieur de ce premier roman Rapatrié, vous mettez en scène cette merveilleuse femme belliqueuse qui petit à petit va se dépouiller de tous ses oripeaux à la fois sociaux, professionnels, et va devenir une sorte de mendiante de l'éternel qui va perdre la mémoire mais en même temps retrouver peut-être toute l'histoire du monde. Il n'empêche que dépouillée de tout, elle part, sans même le savoir, par une sorte de généalogie mémorielle. Elle part où ? Elle part au pays de sa petite enfance.
C'est vrai que à un certain moment, elle va retrouver l'enfance. Alors, j'aime beaucoup votre question de savoir si, finalement, notre enfance, c'est notre pays. J'essaie de l'interpréter de deux manières différentes. Est-ce que notre pays, c'est le pays où on a vécu notre enfance, c'est-à-dire le pays réel, ou est-ce que c'est finalement la période d'enfance même qui est notre pays? Et de ces deux manières-là, je choisirais la deuxième. Je pense que c'est la période d'enfance qui est notre pays, surtout dans la manière dont on l'a vécu. Par exemple, moi, personnellement, en tout cas, je n'ai pas l'impression d'être à l'étranger quand je suis à Paris. Vraiment, je m'y suis comme un petit poisson dans l'eau. Je suis très bien à Paris et très content d'y être. Pourtant, j'ai vécu toute mon enfance à Port-au-Prince. C'est que pendant mon enfance, j'ai toujours lu et vu des films, lu des textes, etc., qui m'ont ouvert sur le monde. Et ces choses-là font que cette manière de vivre l'enfance m'a donné, sinon une enfance multiple comme James Noël, du moins une enfance qui peut s'adapter dans beaucoup de pays, de telle sorte que je peux être chez moi en beaucoup d'endroits différents, comme je le suis actuellement à Paris.
Merci et bravo Néhémie Pierre Dahomé pour ce premier roman qui s'intitule Rapatrié, qui vient de paraître au Seuil. Bravo James Noël et continuez à être notre poète. On peut vous lire en livre de poche, on peut vous trouver dans toutes les bonnes librairies. Votre dernier ouvrage s'intitule La migration des murs et vient de paraître aux éditions Galade. Et je vous propose de nous quitter avec un autre poète qui, hélas, n'a pas eu le prix Nobel. Pourtant, il le méritait. Il s'appelle Leonard Cohen. On entend un extrait de son dernier album, You Want It Darker.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame.
taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Vous avez entendu ce soir dans l'heure bleue Luc Merville, Arthur H., Ticoca et Leonard Cohen. Merci à Thierry Dupin, merci à Laurent Thomas qui a réalisé cette émission, qui a été préparée comme chaque soir par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Arthur Daniel, avec à la technique ce soir David Federman. Merci à toutes et à tous. Et comme chaque vendredi soir, eh bien vous retrouverez Didier Varro. On va continuer en musique sur France Inter avec Foule Sentimentale.